Aujourd'hui à l'Actu Plus, on discute avec Martin Ferron, préfet de la Vallée de l'Or, pour le projet de la 117.
On parle de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars.
On a également une entrevue avec José Méthode, présidente directrice générale de l'Association minière du Québec.
Et bien sûr, on fait le tour de l'actualité de la semaine.
Vendredi 28 février, bientôt le 29, année bissextile cette année, on l'oublie pas. François Munger avec nous, ça va bien?
Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée de plus maintenant?
Je vais sûrement profiter de la neige. Là. Je me suis habillé en conséquence là, pour essayer de jouer dans la neige et pas avoir froid. C'est une journée pour ça aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de neige qui est tombée, donc faut s'adapter.
Mathieu, tu as parlé cette semaine avec le préfet de la MRC de la Vallée de l'Or concernant le dossier de la fameuse 117.
Oui, donc il y a eu une sortie qui a été faite par les préfets, par la table des préfets régionales, pour avoir une étude d'opportunité sur le projet de la 117, une étude complète qui va nous expliquer exactement c'est quoi les possibilités pour le projet pour rendre la 117 plus sécuritaire. Et c'est une exigence là, qui a été très claire des préfets, donc on va pouvoir entendre Martin Ferron là-dessus.
Le message qui est lancé par la conférence des préfets et tous les préfets de la MRC qui représentent la population de l'Abitibi et Miscamingue, les autres maires également, tous ensemble, on a décidé que c'était assez de statu quo, de dire qu'on allait de gouvernement à gouvernement faire des actions, faire des améliorations sur le réseau. C'est toujours fait de façon partielle ou très limitée, même reporté pour avoir du temps dans le temps. Exemple, depuis 2012, on annonce des voies de dépassement, il n'y a jamais rien qui a été fait à cet effet-là, ou presque rien. On est rendu au-delà, même les voies de dépassement ne seront pas la solution. Il y a plusieurs actions qui doivent être prises, dont la réfection complète de la 117 à plusieurs niveaux. Pas nécessairement de la même façon, il y a des tronçons plus problématiques que d'autres. Est-ce que c'est changer, c'est doubler les voies? Est-ce que déplacer certains tronçons? Est-ce que c'est faire des voies de dépassement? Probablement que tout ça ensemble a une certaine logique à savoir qu'est-ce qui est le plus privilégié, dépendamment des secteurs problématiques, qui vont toujours rester problématiques et vont aller en agrandissant. Alors, on est tanné d'être en mode attente, on doit être en mode action, on exige des actions, c'est-à-dire immédiatement le démarrage d'études, d'analyses, des différentes opportunités qu'on doit mettre en prévision de budget par la suite et donner des contrats et mettre des travaux en place pour améliorer la sécurité, la fluidité et l'accessibilité à la 117, ce qui est, comme je disais, ce qui est le nerf de la région, qui est la colonne vertébrale de la région pour la sortie, pour les transports, pour l'économie, pour les déplacements des étudiants, pour le transport scolaire. C'est la 117 qui est le nerf de notre région, alors principal.
Bon, puis on se concentre plus sur la partie du parc La Vérendrye ou plus la partie Val-d'Or-Ouen?
Tous les tronçons sont à travailler. Exemple, la section vient d'être annoncée dans le secteur plus au sud, Laurentides, Label, le secteur Mont-Laurier. Tu connais cette problématique-là, on la voyage tous. Ils vont aller en étude. Opportunité, quelles sont les meilleures options dépendamment des sections dans le trajet. Ils sont déjà en action. Nous, on n'est même pas à cette étape-là. Puis on demande au gouvernement de partir ces études-là pour se préparer, pour pouvoir ensuite budgéter puis ensuite faire des travaux. Si on fait juste en parler, on reporte encore tous ces éléments-là, devront être quand même faits dans le futur. Puis on dit que ce tronçon-là, qui est la transcanadienne, est névralgique pour le transport également des marchandises, mais également pour tous les usagers. Comme je disais, on ne peut pas revenir sur tout le nombre de morts, sur tout le nombre d'accidents, sur toutes les problématiques. C'est un ensemble de facteurs qui font que toutes les sections doivent être analysées. Les réserves phoniques, ce n'est peut-être pas des doubles voies que ça prend. C'est peut-être d'autres choses, plus quelques voies de dépassement, une amélioration de certaines infrastructures, ponts, enlever peut-être quelques courbes, améliorer le pavage. Mais dans d'autres tronçons, exemple, à l'article Rouen, on est ailleurs. Une problématique de concentration, on doit faire d'autres genres d'analyses, d'autres genres de travaux. Alors, c'est aux experts à se pencher sur la situation, mais le gouvernement doit donner le go pour aller de l'avant. Alors, on va pouvoir peut-être un jour interpeller le fédéral, qui peut être ouvert à faire des participations financières à notre projet de revitalisation de la 117, de réaménagement. Mais si on n'a rien à lui présenter, puis on dit « on voudrait revitaliser la 117 », ils vont dire « oui, qu'est-ce que vous voulez faire? » On ne le sait pas. Bien, ça prend un projet. Alors, si le gouvernement du Québec veut vraiment rallier le fédéral à notre projet, de restauration, d'amélioration de la 117, on doit avoir quelque chose à lui présenter. Mais le statu quo a assez duré. On exige des actions concrètes sur un projet de développement et de réaménagement de la 117.
Parce que quand on parle d'attractivité pour la région, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre ces temps-ci. La route, oui, il y a tout le dossier Internet de transport aérien, mais la route, c'est la voie principale. Donc, ça, c'est un frein majeur à attirer des gens ici, j'imagine.
C'est un frein majeur, c'est un frein au développement. On a, écoutez, on n'a pas de transport collectif vraiment structuré. Oui, on a du privé qui fait ça. Mm-hmm. On n'a pas le réseau de train, on n'est pas accessible à ça. On n'a pas de grand pont, on n'a pas d'autoroute, on n'a pas de tunnel, on n'a pas de métro. Moins de 1 % du budget pour le transport collectif au Québec est envoyé dans les régions. Nous, notre besoin, c'est la route. Ailleurs, c'est d'autres choses. C'est correct que ce soit d'autres choses. Il y a des concentrations de population qui sont différentes. Les besoins sont différents. Chez nous, on a vraiment besoin d'une 117 sécuritaire, bien aménagée, fonctionnelle. Le sud du Québec, tout le monde va être gagnant à ce que notre Abitibi, nord du Québec, se développe économiquement. Ça va être plus rentable encore pour le sud que l'investissement qui sera fait, qui va apporter une amélioration, bien sûr, au niveau de la sécurité, mais au niveau des transports, des déplacements et de l'économie. Tout ça ensemble, ça va réussir. Ça va être un projet beaucoup plus structurant que peut-être il l'imagine, mais nous, on est sûr que le développement va se joindre à ça d'une façon directe. Parce qu'on est un moteur économique du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord. Moteur économique important, ratio population, ce qui est retourné à Québec, c'est beaucoup plus important que d'autres régions. Alors, oui, notre juste part, on doit l'avoir. On n'est pas moins important que les autres. On ne jalouse pas les projets des autres non plus. Si je compare au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a eu une autoroute qui était peut-être promise pendant 20 ans, entre Québec et Lac-Saint-Jean, qui a moins de véhicules quotidiennement qui l'empruntent que notre problématique. On parle d'autour de 5000 jours, eux, on est rendu près de 10 000 ici. Alors, on n'est pas moins important. C'est aussi important la sécurité ici qu'elle est dans d'autres régions. On doit prendre les actions tout de suite pour pouvoir faire un projet dans quelques années, parce que c'est long les études, c'est long faire des plans, c'est long structurer tout ça, préparer la disponibilité budgétaire, ça doit se faire d'avance. On n'a rien de fait encore. On est toujours à parler. Bien, nous, le mode parler, c'est terminé, on veut être en mode action, on exige des actions.
François, le 8 mars, c'est la Journée internationale du droit des femmes qui va avoir lieu et tu as rencontré deux personnes là-dessus.
Exactement, puis on a parlé de ce qui va se passer plus précisément du côté d'Amos. Il y a entre autres Françoise David qui va être de passage ici pour donner une conférence. Fait qu'on en a parlé dans une entrevue un petit peu plus longue.
Cool.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme qui a lieu le 8 mars, on reçoit aujourd'hui Mme Josée Gravel, coordonnatrice du Centre Femmes Ressources. Bonjour.
C'est ça, bonjour.
Et Mme Gaétane Chénier, coordonnatrice de l'intersectionnalité au Calax Abitibi.
Bonjour.
On va commencer tout de suite là. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'intersectionnalité?
L'intersectionnalité, c'est que moi, je travaille auprès des femmes aînées, les nouvelles arrivantes, les femmes autochtones, les femmes de la diversité. Fait que mon travail, c'est d'aller regarder puis de travailler avec ces femmes-là. Fait que c'est pour ça l'intersectionnalité.
Parfait. On va commencer par démystifier ça.
Merci.
La journée du 8 mars approche à grands pas. Il y a un thème cette année pour cette journée.
Oui. Oui, le thème, c'est la lutte féministe, c'est les enjeux actuels. C'est le féminisme sous toutes ses formes. Parfait. C'est un bien grand terme.
Et là, il va y avoir une activité au niveau local ici.
Oui. Il va avoir, on a la présence de Mme Françoise David, qui, bon, on connaît, plusieurs personnes connaissent Mme David, c'est une politicienne. Elle a travaillé à la cause des femmes, c'est une féministe à Québec, elle était à Québec solitaire, la Fédération des femmes du Québec et la Marche mondiale des femmes. Elle va venir nous faire une conférence sur démystifier la lutte féministe puis les enjeux actuels. Fait que l'activité va se passer au Café 1 du Cégep sous forme d'un brunch de 10h à 13h, brunch continental. Il va y avoir des prix de présence, de l'animation, des super de belles animatrices qui vont être présentes. c'est 10$. Et les billets sont chez Family Prix, à l'Écolovrac, puis auprès du comité organisateur.
Voilà une conférence.
Le comité organisateur, c'est le Calax Abitibi, c'est la Maison Mucana, c'est...
Centre Femmes Ressources.
Centre Femmes Ressources, le CISAT, pas mal ça.
Oui, oui.
Et
oui.
Des bénévoles qui vont être autour de ça.
Et j'imagine que justement, on en parlait, le choix de Mme David pour cette conférence-là, ça venait de soi un peu dans l'organisation.
Tout oui, puis on avait essayé de l'avoir l'année passée pour la journée du 8 mars, qui n'avait pas fonctionné, fait qu'elle nous avait... dit de la rappeler. Là. Alors là, on est bien, bien heureuse d'avoir Mme David là, pour cette activité-là.
Parlez-nous un peu de vos organisations respectives. Je commence avec le Centre Femmes Ressources.
Centre Femmes Ressources, c'est un centre qui existe depuis quelques années déjà, mais qui n'avait pas de financement. Là, on est un peu plus visible parce qu'on a obtenu du financement. Alors, un centre de femmes, c'est un centre pour toutes les femmes de la MRC Abitibi. C'est un lieu de rencontre, c'est un milieu d'appartenance. On fait des activités, on peut faire d'accompagnement individuel. On est sur Facebook, le Centre Femmes Ressources sur Facebook. Donc, on est une petite équipe pour le moment qui travaille à notre mission. Mais ça va bien. On a de plus en plus de femmes là, qui se sentent interpellées par notre organisme. Alors, c'est ça. On est, comme on dirait, un centre de femmes, c'est un peu la première ligne pour les femmes dans la MRC. Donc, s'il y a un problème, n'hésitez pas, venez nous voir, puis on va vous rediriger vers les organismes adéquats.
Au niveau du CALACS.
CALACS Abitibi, c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Nous, on travaille auprès des femmes et les adolescentes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas les hommes. On va recevoir les hommes qui vont venir cogner à notre porte. On va les écouter, essayer de leur trouver, les rediriger vers une autre source. Et on travaille beaucoup dans les écoles en prévention. On a une intervenante jeunesse qui est Jolaine Rochefort. C'est notre intervenante jeunesse. On a le programme Empreinte qui est dans les écoles. C'est du secondaire 1 à secondaire 5. On fait beaucoup de prévention. On fait beaucoup de sensibilisation. On fait dans notre organisme, on a un groupe de soutien qu'on appelle. On a des cafés rencontres. On essaie d'être un peu partout. On fait beaucoup d'accompagnement judiciaire aussi. On prend la victime du début, on l'amène jusqu'au procès, on l'accompagne tout le long, on est toujours présente. Les femmes ne sont pas obligées de vouloir dénoncer pour venir avoir nos services. Ils peuvent nous appeler au 819-732-7889. L'adresse est confidentielle, mais on la donne quand la personne elle nous appelle. Fait qu'on fait beaucoup de défense de droits, on est un peu partout, on est sur les réseaux sociaux. En gros, c'est pas mal qui on est là. Beaucoup de travail.
Alors, on le disait, la journée du 8 mars est à nos portes. Parlez-nous un peu de cette journée-là en particulier.
Bien, cette journée-là, elle sert beaucoup pour reconnaître les gains qu'on a eus au niveau de la défense de droits des femmes, puis toutes les revendications aussi qui se sont faites au cours des années. Il y en a eu beaucoup. Il y en a qui ont porté fruit, il y en a qui n'ont pas porté fruit, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à lutter. À lutter puis à revendiquer, parce que c'est important que les femmes prennent leur place dans notre société. Ça va bien, mais ça pourrait aller encore mieux. On a encore à lutter contre la violence faite aux femmes, hein, on entend beaucoup parler. On a encore à lutter contre les inégalités au niveau du salaire versus les compétences hommes-femmes. Ça, c'est toujours dans le décor, mais d'abord et avant tout, moi, ce que je crois, et plusieurs femmes là, pourraient se joindre à moi, pour ça, on a à éduquer nos enfants, les filles et les garçons, pour qu'ils reconnaissent les compétences, les forces de l'autre sexe et vice-versa, et les différences aussi. Fait que ça, on a beaucoup, beaucoup à travailler ça individuellement. C'est beau de travailler collectivement, mais il faut aussi reconnaître qu'on a un mandat personnel à faire là, pour ces changements-là.
Vous avez parlé de gains, vous avez ciblé des exemples plus précis pour imaginer le tout.
Bien, des gains, en tout cas pour notre MRC, c'est évidemment le centre de femmes. Avant, il n'y avait pas de centre de femmes. Quand il y en a plusieurs à travers la province de Québec. Ici, en région, on a un centre de femmes à Rouyn, La Sarre. Il y en a dans le nord du Québec aussi. Mais à Amos, ça, c'est vraiment un véritable gain là, qu'on a pour les femmes.
Si tu me permets, il y a un gain aussi qu'on pourrait dire qu'on a Station 55 maintenant à Amos qui regroupe plusieurs organismes.
Oui.
Puis ils font plein d'activités aussi. Ça, c'est quelque chose de très apprécié des femmes.
Oui, puis c'est pour les aînés, mais il y a beaucoup de femmes qui s'en servent. Il y a aussi, au niveau provincial, toute la criminalisation de l'achat de services sexuels. Avant, c'était pas criminalisé, ça. Maintenant, ça l'est. Et les femmes qui vendent des services sexuels sont plus criminalisées, eux autres, par rapport à ça. Il y a aussi tout le grand mouvement MeToo hein, qu'on a tout entendu parler. Bien, ça a amené des changements au niveau des politiques institutionnelles. Quand on pense à des universités qui ont mis des lois par rapport à ça, ça a déclenché un dévoilement collectif Donc, ça l'a sensibilisé, mais pas juste les femmes, les hommes aussi. Puis il y a des hommes aussi qui ont pu dénoncer par rapport à tout ce grand mouvement-là. Fait que ça, c'est important. Puis le mouvement des femmes, on est beaucoup à travers de ça à différents niveaux. Il y a aussi, mais c'est au niveau du Québec, le projet, pas le projet, il faut l'appeler Rabaska maintenant. Le Rabaska qui est une action qui est faite pour prévenir les risques d'homicide conjugal.
C'est plusieurs organismes qui travaillent ensemble, la SQ. Mettons, je sais que dans ça, tu avais le CRC, oui, le SATAS, je veux dire, le SATAS. C'est comme une cellule. C'est une cellule. Donc, ce sont plusieurs intervenants ensemble, puis ils vont travailler à...
En prévention, s'ils ont des doutes sur une personne ou une situation. Fait que ça, c'est un gros gain. Un gros gain. Puis c'est l'effet aussi de tout travailler ensemble, tous les organismes qui sont sensibles à ces causes-là. Ça, c'est une grande force, en tout cas, je pense qu'on a sur notre territoire, puis qui se développe de plus en plus au Québec. Il y a également une priorité aux logements sociaux pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ça aussi, c'est un gain qu'il y a eu à travers les années. Puis, il y a évidemment là, la résiliation de bail là, qui peut s'en suivre. Mm-hmm. Fait que ça, c'est des gains qu'il n'y avait pas avant, que les femmes ont obtenus. La CNESST aussi octroie 5 jours de congé pour les femmes là, en situation de violence conjugale. Donc, il y a beaucoup de gains qui ont été faits, mais il faut encore travailler fort puis reconnaître ces gains-là aussi.
Il y a 16 procureurs qui ont été sensibilisés en violence conjugale. Fait que ça aussi, c'est un gain très important. Là,
après tout le mouvement MeToo, là, il y a un comité d'experts qui a été mis sur pied.
C'est fait ça. Il y a un comité d'experts aussi qui est venu à la table régionale en violence conjugale et agression sexuelle. Et ils rencontraient les organismes et leur demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le processus judiciaire et tout. Nous, on a une intervenante, Josée Bellil, qui a participé à ce comité-là. Pas au comité, mais d'aller donner des revendications, comment améliorer tout le service judiciaire auprès de nos victimes, comment mettre des stratégies en place. Fait que ça a été super important, puis il y a eu un beau travail de fait. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? On ne le sait pas, là.
Au moins, il y a des pas de fête puis des avis qui sont donnés. Là.
Ça, l'avenir va dire quels sont les résultats que ça va avoir. Donc, on invite une fois de plus les gens le 8 mars pour la conférence.
Au caféine du Cégep d'Amos, c'est de 10h à 13h. C'est 10$ à l'entrée et c'est un brunch continental avec la conférence de Mme Françoise David, prix de présence, animation et autour de ça.
Une belle journée pour célébrer. Puis moi, j'aimerais inviter les jeunes femmes.
Oui, la relève.
Qui viennent à cette journée-là pour échanger avec d'autres femmes, entendre Mme David, s'informer des luttes féministes qu'il y a eu. Ça nous appartient pas juste à nous autres, ça appartient à toutes les femmes, dont les jeunes femmes là, de notre territoire. Alors, un bienvenue spécial à celle-ci.
Puis c'est ouvert à toute la population, dans le fond. Il y a des jeunes familles qui viennent. Oui.
Mathieu, cette semaine, il y a une étude de l'Institut Fraser qui est sortie au sujet des mines. Et l'AMQ a été un petit peu ébranlée par cette étude-là.
Oui, bien, c'est qu'on glisse au classement, donc on passe au 18e rang mondial, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les producteurs miniers. Donc, ce qu'on demande, c'est finalement d'avoir des mesures un peu plus prévisibles pour contribuer au développement des projets. Parce que, bon, actuellement, l'industrie minière se porte relativement bien. Mais ce qu'on veut, c'est pas attendre un cycle baissier pour réagir. Donc, on en a parlé avec José Méthode, la présidente directrice générale de l'AMQ.
Ben là, vous avez réagi au classement de l'Institut Fraser qui annonce pas nécessairement des bonnes nouvelles là, pour l'industrie minière au Québec. Donc, il y a une décote. Vous avez identifié quelques solutions, souvent des mesures environnementales. Est-ce que vous pensez que l'attention pour l'environnement nuit à l'industrie minière actuellement? Ou...
Non, pas du tout. Je pense que il faut bien se comprendre que ce qu'on vise ici, c'est les processus d'autorisation environnementale. On vise plutôt donc le fardeau administratif qui est lié au processus d'autorisation environnementale. On ne parle pas du tout de déréglementer ou de moins protéger l'environnement. Ça n'a jamais été le cas. C'est que les processus sont laborieux, sont longs, et on pense que autant du côté fédéral que du côté provincial, il y a espace à amélioration. Il faut le savoir que vous savez, il y a certains projets miniers qui sont existants en ce moment, là, qui ont dû obtenir plus de 600 permis pour réaliser leurs projets. 600 permis, c'est beaucoup de permis, vous me direz. Alors, nous, on croit qu'il y a moyen de travailler là-dessus. Et en fait, ça se fait en ce moment. On travaille avec le gouvernement provincial. Vous le savez que le gouvernement provincial a adopté, oui, des modifications législatives pour ce qui est des autorisations environnementales. Et l'an passé, a fait une très grande, consultation avec des tables de co-création et pour justement regarder comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire mieux? Est-ce qu'on a toujours besoin d'autant de permis? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait qu'on a besoin plutôt d'un certificat ou une déclaration de conformité ou d'autres types? Il y a des activités peut-être à risque négligeable où on n'a pas besoin de permis alors que dans le passé, vous savez, notre histoire, ça fait longtemps que le système de permis existe et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peut-être des activités qu'on n'a plus besoin d'avoir des permis pour ça. Et donc, il y a matière à amélioration. La réglementation vient juste d'être déposée justement au Québec pour consultation, justement, la nouvelle réglementation. Alors, il y a des choses qui peuvent se faire. On pense que ça peut être amélioré. Et maintenant, on va voir si tout le travail qu'on a fait ensemble l'an passé avec le gouvernement du Québec va porter ses fruits avec le projet de règlement qui est en consultation.
Bon, vous demandez un peu plus de souplesse, un peu plus d'accélérer le processus. Souvent, ça va à l'opposé du discours environnementaliste. Donc, avez-vous l'impression que toujours ces discours-là vont se rentrer dedans puis que finalement, on ne s'entendra jamais puis que ça va être toujours le conflit éternel?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on est là. Je pense que, puis on le sait qu'autour de la table, quand on a travaillé sur les différentes tables, il y avait quand même des groupes environnementaux qui étaient représentés et tout le monde a pris conscience là, de ce qui pouvait être fait et pas fait. Donc, mais comme j'ai pas la réglementation est sortie la semaine dernière, la nouvelle réglementation est en consultation, je vais devoir voir pour être en mesure de la commenter davantage là.
Sinon, ben là, il y a un nouveau budget qui s'en vient, donc j'imagine que vous espérez justement des mesures au niveau des incitatifs financiers pour aider, contribuer à ce qu'il y ait des nouveaux projets qui se développent au Québec.
Ben, oui, c'est sûr que, on le sait, là, le rapport de l'Institut Fraser vient de sortir. C'est le portrait d'un sondage de l'année 2019. L'année 2019, on le sait qu'il y a eu énormément d'incertitudes parce qu'autant au fédéral qu'au provincial, on parlait de révision de processus d'autorisation environnementale. Mais aussi, dans tout ça, il y a toutes sortes de réglementations qui se sont ajoutées et qui font en sorte qu'on a besoin de mettre des mesures pour faciliter, en fait, le développement de projets au Québec, comme au Canada, là, parce qu'on parle de l'Institut Fraser, on sait très, très bien que ce rapport-là analyse le Québec, mais également a analysé le Canada en entier. Et on a vu que dans les deux cas, on a quand même eu des deux côtés là, un recul dans le rapport, un recul au niveau de notre rang dans le rapport de l'Institut Fraser. Et on sait très bien que ça va affecter l'analyse des investisseurs. Quand un investisseur regarde, se demande où est-ce que je vais investir, bien, il analyse tous ses risques d'investissement et il regarde le rapport de l'Institut Fraser pour être en mesure de voir, bien, est-ce que c'est un endroit où je veux investir? Est-ce qu'il y a de la certitude? Est-ce qu'il y a de la prévisibilité dans les processus? Or, maintenant, quand on regarde le rapport, on voit très, très bien que dans plusieurs aspects du rapport, le Québec a vraiment perdu au niveau de l'avancement qu'on avait.
Donc, ce qu'on veut, c'est des crédits d'impôt, des programmes d'aide. Y a-t-il des choses plus concrètes, des demandes précises qu'on adresse au ministre Girard? Ou...
Oui, effectivement, il y a des demandes précises qu'on a adressées en consultation prébudgétaire pour aider l'industrie à faire mieux. Je vais vous parler, vous me parliez tantôt d'environnement. Moi, je peux vous parler de développement durable. Évidemment, nous, on est en charge à l'Association minière du Québec, à l'implantation au Québec, au niveau de toutes les installations minières, d'une initiative qui s'appelle « Vers le développement minier durable ». Ben, pour mettre en place cette initiative-là, pour aider les minières à faire encore mieux, ben, évidemment qu'on a demandé de l'aide du gouvernement là-dedans. Notre intention, c'est, oui, on veut que les sociétés minières implantent l'initiative. C'est une forme, c'est un processus d'amélioration continue dans des pratiques environnementales et sociales. Mais nous, on ne veut pas juste implanter l'initiative. On veut continuer à s'améliorer. On veut pousser encore plus loin notre industrie pour qu'elle fasse encore mieux. Alors là-dessus, il y a des mesures qu'on a certainement qu'on a demandé également au gouvernement. Oui.
J'imagine, en terminant, j'imagine que vous avez suivi un petit peu le dossier Sayona Québec ici en Abitibi, du côté d'Amos. Quel impact ça peut avoir joué justement sur un sondage comme l'Institut Fraser? Pensez-vous que c'est pris en compte au niveau de l'accueil un peu hostile là, des gens, de la population, les craintes? L'attitude aussi de la minière au départ qui était très méfiante, là. On s'en méfiait, disons comme ça.
En fait, ce que ça a généré, c'est de la part des investisseurs, quand ils regardent comment les choses se sont passées dans le cadre de ce projet-là, bien, ça génère de l'incertitude, on l'a dit. On veut de la prévisibilité. Or, évidemment, toutes les discussions autour de ce projet-là, on peut parler des discussions autour du projet, ont fait en sorte que les investisseurs qui regardent ça, ils se disent « Oh, attends une minute, là, même si je suis les règles au Québec, même si je fais toutes les études comme je les suis, en cours de route, on peut changer ça, on peut changer les règles. » Alors, oui, c'est pas une situation qui aide à ajouter ou à donner de la prévisibilité dans le développement de projet. Et évidemment, quand un investisseur investit, il veut avoir de la prévisibilité qui va un jour avoir du retour sur cet investissement-là. C'est comme nous tous. Moi, quand j'investis dans mes REER, ben j'espère qu'ils vont me rapporter comme nous tous. Là. Alors, c'est la même chose pour un investisseur.
Évidemment, notre habituel rendez-vous à Radio Boréal 105.3 ce matin avait lieu pour résumer l'actualité de la semaine. Je vous laisse entendre ce que ça donne.
C'est l'heure de la revue de l'actualité de la semaine! Jingle!
Hey!
Non,
on a pas de jingle. La revue d'actualité de la semaine!
Hey, c'est bon,
ça t'isole ça.
Faudrait qu'on enregistre ça, qu'on en disque ça, puis on fait un album.
Écoute.
Mets ça sur Spotify.
On est parti.
Qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine, François?
Ben, beaucoup de choses. Entre autres, on a parlé de la 117 cette semaine, cette fameuse route 117. Mm. On demande une étude d'opportunité, entre autres.
Puis on c'est demande... les préfets.
Les préfets qui demandent des actions aussi, Mathieu.
Oui, parce que là, ce qu'on expliquait, c'est que depuis plusieurs années, il y a eu des travaux, il y a eu des promesses de travaux, il y en a plusieurs qui n'ont même pas été faits jamais. Et ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas suffisant, parce que la 117, c'est une route importante, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de débit de voitures qui circulent là-dessus, le transport lourd. Donc, on veut sécuriser la route, mais de manière concrète, vraiment, là, faire un vrai projet. Et ce qu'on dit, c'est qu'on prend toutes les idées. Pas juste on fait une couple de voies de dépassement, non. Est-ce qu'on déplace la route? Est-ce qu'on fait une autoroute avec ça? Est-ce qu'on fait un 4 voies? On veut toutes les idées dans cette étude-là. Donc, c'est ce que les préfets ont demandé. Ça fait ça un peu aussi aux promesses électorales. Bon, Pierre Dufour, en campagne électorale, avait fait de la 117 un engagement électoral fort. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que la sortie publique a été faite cette semaine des préfets. Donc, ça va être un dossier à suivre, un dossier intéressant. Pierre Dufour, d'ailleurs, qui avait réagi là, un peu, là, qui a dit qu'il faut faire de la 117 un projet de société.
Oui, exactement. Je pense que le message est clair. Puis je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Il faut travailler sur la 117 parce que... Mm-hmm. Puis il disait là, le volume, juste entre Val-d'Or et Malartic, là, on parlait de 12 000 véhicules par jour.
Oui, ben c'est ça. C'est comparativement l'autoroute des Laurentides, par exemple, qui est une autoroute 4 voies, ben ça se compare. Donc, on pourrait aussi avoir le même style d'autoroute. Et puis pour la région, ça serait vraiment intéressant parce que là, ça sécuriserait la route, ça rassurerait les gens. Les gens auraient moins peur de venir en région pour le tourisme, pour juste travailler. Si on parle de pénurie de main-d'œuvre, ben, si le transport, c'est un irritant, ben ça nous aide pas pour attirer les gens. Puis on le voit, là, il n'y a pas beaucoup de voyageage de gens, d'immigration de région en région ou de gens de l'extérieur. Là,
mais on s'entend que ça se fera pas demain matin, non?
C'est sûr.
Parce que c'est un projet qui est long. Sinon, je t'amène sur un autre dossier, Mathieu. Il y a Pompao René Rochefort de Val-d'Or qui a été condamné à verser une amende de 30 000 $.
Ouais, c'est le ministère de l'Environnement là, qui a annoncé ça cette semaine. Donc, condamné parce que, bon, ils déversaient leurs eaux usées.
Ou en tout cas, un produit du côté de Rivière-Eva qui pouvait être nocif.
Dans la rivière, le lac Malartic, ou en tout cas, dans ce coin-là, il y a un paquet de lacs. Là, donc, pas beaucoup de réactions du côté de l'entreprise, pas beaucoup de réactions nulle part, mais c'est ça. Donc, le ministère de l'Environnement qui fait son travail lorsqu'il y a des contrevenants à la loi sur l'environnement.
Sinon, les policiers ont été occupés aussi cette semaine du côté d'Amos dans les faits divers. Il y a un homme qui s'est présenté au poste de la Sûreté du Québec en sang et qui, là, décrivait ses agresseurs. Eh bien, les policiers ont retrouvé les agresseurs assez rapidement dans les minutes qui ont suivi. Deux gars qui étaient à bord d'un véhicule et finalement, ces deux gars-là ont comparu un petit peu plus tôt cette semaine. Il y a quelques accusations dans ce dossier-là. Et à peu près au même moment, du côté de Val-d'Or, il y a eu une altercation. Il y a une personne qui a été blessée gravement au bras de ce côté-là. Je sais qu'il y a une personne également qui a comparu dans ce dossier-là.
Mais c'est pas relié.
Non, c'est pas relié. Les deux dossiers sont pas reliés, mais sont survenus à peu près au même moment.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même intense. Puis sinon, ben, dans cette même soirée-là, dans les faits divers, il y a eu un incendie du côté de la SAR qui a ravagé un immeuble où il y avait des logements, il y avait des commerces, entre autres le barbier Chiréal,
ouais.
Du côté de la SAR, qui était visiblement bien connu, puisque les gens de là-bas m'en parlaient.
Incendie à la SAR, il y en a eu quelques-uns dans les dernières semaines, des incendies marquants. Là, on a parlé de l'école, évidemment.
Il y a eu des
Carolanda à Rouen, mais en tout cas, l'école primaire
à la Sarre,
j'ai oublié le nom. Oui. Mais donc, c'est jamais des bonnes nouvelles parce que ça, c'est au centre-ville, cette bâtisse-là aussi. Donc, ça défigure au centre-ville un peu. Hein.
Et là, ce que je discutais avec le chef des pompiers là-bas, c'est est-ce qu'on a une cause pour cet incendie-là? Et on me disait, ça va être difficile parce qu'on a dû débâtir complètement la bâtisse pour réussir à l'éteindre. On voulait sauver le bâtiment à côté. Centre-ville de la Salle, les bâtiments sont quand même assez près. Là, donc, on a voulu éteindre le feu avant que le feu poigne dans la bâtisse à côté. Sinon, bonne nouvelle, un an pour Boréalais du côté d'Amos. On a parlé d'ailleurs à la propriétaire hier, Mathieu.
Êtes-vous des consommateurs de lait non homogénéisé?
Moi, je suis plus au niveau du yogourt et du fromage de Boréalais. Mais quelle belle entreprise.
J'aime le fromage aussi, oui.
Puis là, j'ai hâte de voir. Je vais l'essayer, là, à nous annoncer. Il y a du lait au chocolat.
Ouais.
Ça vient me chercher. Là.
Ça touche une corde sensible. Hein.
Ouais.
Mais ouais, j'ai bien hâte de voir. Puis il y a beaucoup de projets des fromages un peu plus affinés aussi là, qui s'en viennent. Du côté
puis il faut dire que c'est une entreprise en un an qui a développé 40 points de vente en région.
Wow.
Donc, on a fait des partenariats avec un paquet de monde. On va continuer de faire des partenariats de ce côté-là. Ils ont gagné un prix l'année passée au Gala Élite. Donc, une entreprise qui est en plein essor, puis je pense qu'il est directement sur son X. Ce qu'on disait justement dans la nouvelle, c'est ce sont des bouteilles qui sont... Tu sais, ce sont des bouteilles qui ne se ramassent pas aux déchets, ce sont des trucs qui se récupèrent, puis...
C'est là que ça se passe, dans l'air du temps. Puis même, l'entreprise a démarré aussi à un moment où les producteurs de lait n'étaient pas nécessairement dans une bonne séquence là, avec tout ce qui s'est passé avec la gestion de l'offre, les renégociations des accords internationaux. Donc ça c'était pas une bonne ville, mais pour Boréalais, eux, avec un produit de proximité comme ça, ça a super bien tombé. Donc les gens savaient que le lait, savaient plus trop d'où ça venait et tout ça. Bon, c'était compliqué. Donc quand t'as une entreprise comme Boréalais qui s'installe localement et distribue de proximité, c'est très plaisant pour les clients.
On parle de Boréalais, je fais un lien agriculture. Cette semaine, il y a la coop Novago du côté d'Amos qui a subitement fermé ses portes. Ça a été rapide. Je dirais que les clients l'ont su le matin même où ça s'est passé. Les employés l'ont su la veille et les membres n'étaient pas très contents. On a parlé d'ailleurs au président local de l'UPA, M. Rowe,
régional
de l'UPA, en fait, qui est allé à l'Assemblée des membres puis qui mâchait pas ses mots par rapport à ça. Donc, une autre perte pour la région. Il y a eu quand même des réactions assez rapides de plusieurs entreprises ici dans le secteur d'Amos qui ont fait « Hey, on est capable d'aller chercher vos produits puis on va vous en amener, on va ajouter de l'inventaire. » Mais c'est une autre perte là, pour le commerce de détail en tant que tel. Puis, un commerce un peu plus spécialisé aussi.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis, on explique ça par la pénurie de main-d'œuvre encore une fois. Il y a plein de raisons, probablement, mais on voit que... quand on a une pénurie de main-d'œuvre, on ne peut pas faire fonctionner énormément l'économie. Ça retarde les projets, ça les bloque. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles. Là.
Parlant de projet, Mathieu, il y a un projet de maison des aînés du côté de Palmarol.
Oui, tes vieux jours sont assurés, François.
Voilà.
Yeah. Tu vas pouvoir emménager. Puis, donc, c'est un 24 unités, donc deux unités de 12 logements, donc chambre, salle de bain, milieu de vie.
Accueillant,
qu'on promet à dimension humaine. C'est ce que la CAQ nous vend avec les maisons des aînés.
Les images sont magnifiques.
Sont magnifiques. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que pour Palmarol, c'est une bonne nouvelle parce que, bon, le CHSLD, on se souvient là, que tout ce qui s'était passé, le bâtiment était plus sécuritaire. On ne pouvait plus accueillir les résidents. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un nouveau projet pour essayer de justement garder les aînés dans le milieu. Plus proche de chez eux.
J'ai l'impression qu'on entre dans une nouvelle ère d'architecture. Tu sais, quand on regarde un hôpital, on va s'entendre, là, malgré tout le travail qui est fait dans la déco intérieure, là, c'est fret comme bâtiment. Ouais.
C'est qui lâche la peinture.
Autant des maisons des aînés comme ça, mais là, on semble vouloir intégrer le bois. Autant du côté des maisons des aînés, il y a en éducation, on a parlé des écoles cette semaine, et ça m'amène sur le domaine 2.0 aussi, où dans les plans, on voit du bois.
Des images cette semaine, là, j'ai vu les nouveaux plans, ça va être intéressant.
C'est tout des trucs, là. On dirait que le gouvernement du Québec a vraiment voulu prendre ce virage.
Il y a des règles, c'est sûr qu'ils sont obligés d'utiliser le bois, là, aussi de mettre les arts en valeur, donc le 1% là, de l'investissement. Si tu as un projet de 1 million, ben, il faut que tu mettes... 100 000
La fenestration de ces bâtiments-là, ouais, ça vient donner un milieu de vie un petit peu plus accueillant. Puis on l'a vu même ici à Amos. Là, moi, je suis allé visiter le centre de détention à Amos. Mm-hmm. L'ajout de ces fenêtres-là, des fois, juste dans un milieu comme ça, on s'entend qu'un milieu carcéral, c'est assez fret. Là. Ouais. Mais juste l'ajout d'une fenêtre sur l'extérieur qui donne un peu de clarté, là, bien, dans la plupart de ces bâtiments-là, même dans les écoles, là, ça va venir... Ça va venir donner une belle petite touche.
Ben, ça ne sera pas fait ça non plus. J'ai hâte de voir comment que ça va se concrétiser en région. Il va y avoir des écoles parce que bon, on sait qu'il y a la Motte notamment qui doit être reconstruite. Là, encore, l'école, c'est des roulottes à la Motte. Là. Oui, donc, ça fait partie des projets de reconstruire cette école-là. Fait que peut-être que ce sera un premier projet pour la région. On verra bien.
Tu parles de roulottes, Mathieu. On cherche une cantine mobile au domaine de...
Ben, moi, j'ai le goût.
Tu vas te partir une cantine.
On se porte une patate. Ça coûte pas cher. Là. Tu achètes une coupe de sac de patates, tu revends ça 6 pièces la poutine, là, de l'argent à faire. Ouais. C'est intéressant.
Ça va marcher. Hein,
c'est un pensée si bien.
Parce qu'en ce moment, il y a à peu près juste des sacs de chips au dépanneur. Il y a plusieurs produits au dépanneur, mais je veux dire, il n'y a plus de bouffe.
Et là, c'est pour le domaine temporaire, précisons-le. Ouais. C'est sur le site actuel, donc il va aussi être réaménagé, végétalisé, tout ça.
Est-ce qu'on parlait d'échéancier? On sait-tu c'est pour quand?
Ça, c'est pas encore clair. Pour le nouveau domaine, il n'y a pas encore de date. Dans le fond, la CEPAC espérait, c'est que ce soit le plus rapidement possible, évidemment. Là,
Mais en même temps, techniquement, le domaine devait être déjà bâti en ce moment.
Oui, c'est ça. Ouais.
On ne peut plus vraiment se fier à cet échéancier-là. En terminant, Mathieu, au niveau des sports, il y a les Foreurs qui cette semaine, ont été dans la tourmente. Ils ont congédié leur entraîneur au début de la semaine.
Sur Facebook.
Ben, en fait, lui, il l'a appris sur Facebook et il y a Danny Marchand qui s'est excusé.
Ouais, mais c'est à l'air de 2020. Les réseaux sociaux, ça va rapidement. Je pense que c'est ça qu'il expliquait. Là, c'est qu'il y a eu une fuite et ça a leaké, comme on dit en bon français. Et ça s'est rendu aux oreilles de l'entraîneur avant que l'organisation le contacte directement.
Ça fait ça même avec des accidents ou quoi que ce soit, un décès de quelqu'un.
Ça va vite. Il y a bien des gens qui ont des sources. Là, on pense aux gens d'RDS, aux gens de TVA Sport, là, quand vient le temps de parler de hockey. Là, les sources se font aller assez vite, puis la nouvelle n'est même pas rendue en dehors du bureau du directeur, puis c'est déjà fait.
C'est même pas encore une nouvelle, c'est une rumeur. Donc là, la rumeur devient la nouvelle. Donc ça, c'est dommage. Ben, je sais pas. En tout cas, moi, ça me
Est-ce que ça va relancer la saison des Foreurs avec le changement d'entraîneur? Ce sera à voir.
Ben, à moins que l'entraîneur mette les patins. C'est pas l'entraîneur qui joue. Hein. On dit souvent qu'on va congédier l'entraîneur pour changer les choses, mais c'est pas lui qui joue. Je comprends que ça y a une dynamique, là, mais c'est comme les Canadiens qui vont pas bien en ce moment. Ils ont d'ailleurs encore perdu une avance de 2 buts hier soir.
Dans la Ligue nationale, je termine. On va aller en musique dans quelques secondes. Félicitations aussi à Jérémy Lauzon, prolongation de contrat de 2 ans avec les Bruins de Boston. Il venait tout juste d'être appelé par l'équipe pour aller jouer avec eux.
Félicitations parce que c'est les Bruins.
Ouais, non, mais c'est un gars de la région. Là. On est fiers.
Incapable. Moi, malheureusement pour lui, c'est avec les Bruins.
Mais mettons que je te mets un combat. Jérémy Lauzon,
contre Nicolas Roy dans la Ligue nationale.
C'est des batailleurs.
Non, je veux dire un match.
En termes d'équipe, là.
Ah, ben ou... c'est arrivé cette année.
Oui,
d'ailleurs.
C'est arrivé justement cette année. Tu prends pour qui?
Golden Knights, ben c'est sûr que c'est Nicolas Roy.
Nicolas.
C'est sûr que c'est Nicolas Roy. Moi, j'ai décrit. J'ai fait la description des matchs avec Michael Bédard des Forestiers Lamos à l'époque où Nicolas Roy était capitaine.
Ah, ben oui, ouais. Voilà.
Alors voilà, c'est ce qui conclut une autre édition de l'Actu Plus. François, émission spéciale aussi.
Ben exactement, il va y avoir une édition des entrevues l'Actu Plus. On a fait une longue entrevue avec Tommy Saint-Laurent pour parler du labyrinthe des insectes, parler de où on en était rendu, la nouvelle salle d'exposition également. Il est venu nous présenter des spécimens naturalisés également. Ben, on a décidé de vous faire une émission complète avec ça. Ça va être diffusé cette fin de semaine à TVC7 et ça va jouer également à partir de samedi sur Facebook.
Continuez de nous suivre aussi sur les plateformes Mediaté.ca, Mediaté, la page Facebook, TVC7, l'actu toujours disponible en balado également, Spotify, Google Play, Apple Podcast, on est partout. Partagez nos contenus, c'est important, c'est évidemment grâce à vous qu'on va réussir à faire grandir ce projet-là. J'espère que vous appréciez. Sinon, ben, envoyez-nous vos commentaires, puis on va s'ajuster. Hein?
Ouais. Puis on vous souhaite un bon week-end.
Yeah!